Europe 1.
. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, cette émission dont la devise est, vous le savez, raconter l'histoire sans se la raconter. Mais aujourd'hui, quand je regarde le co-animateur de cette émission, qui, comme on dit, ne rajeunit pas, faut dire ce qui est, j'ai envie de citer le poète et de rappeler une autre devise. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. Paul Valéry peut décidément être fier de son arrière-petit-fils François. Bonjour Stéphane Bern.
Oui. Bonjour Mathieu, si je ne savais pas que votre lancement est lié à Notre-Dame du jour, je quitterais volontiers le studio, vous laissant seul, vous et votre micro. Mais comme je sais, je vous pardonne. Et puis, juste, je pense que François Valéry n'a aucun lien avec
de parenté
Paul.
Oui. Oh, j'en serais fort déçu.
ça s'entend.
Le
un
même
peu,
génie si coule dans leur
non,
veine. Non, non,
non,
ah, non. Non, oh, vous
non,
êtes dur.
Oui. C'est une autre veine, je crois. Aujourd'hui, effectivement, on réunit trois personnages célèbres dont la mort a été éclipsée par la mort d'un personnage encore plus célèbre qu'eux.
Comme si vous mouriez le même jour que moi, Stéphane.
Un peu. Sauf que même s'il ne m'arrive rien, je doute que votre décès ne fasse la une de Paris Match.
Enfin,
sauf vos liens avec Constance Vinquet, évidemment. Bref, leur mort, en tout cas, a été éclipsée par une autre. A commencer par le second président des États-Unis, John Adams, qui n'a rien à voir avec la célèbre famille du même nom, mort quelques heures après un homme qui a davantage fait parler de lui pour avoir été aussi président des États-Unis. Pas de bol, oui. Et son ancien vice-président aussi, eh oui, le célèbre Jefferson. Puis, elle aussi, même jour, même heure, c'est dans un avion que Ginette Neveu, la plus grande violoniste du XXe siècle, a trouvé la mort. Un avion avec à son bord un champion dans une autre catégorie, le boxeur Marcel Cerdan, qui l'a éclipsé sans le souhaiter. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de Jean d'Ormesson.
Oui, Jean Do, qui a eu la mauvaise idée de mourir le même jour que Johnny Hallyday, dont il venait justement d'écouter le dernier album.
C'est peut-être ça qui l'a tué.
Pas de spéculation, pas de spéculation, des faits, rien que des faits. Voilà l'essence de ma chronique, Stéphane. Rendez-vous aux alentours de 17h20.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes semences, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour Stéphane, bonjour. Bonjour à tous. Alors à l'occasion de l'exposition Les animaux du roi qui se tient actuellement à Versailles, je vais évoquer pour vous un animal, Pralin, le rhinocéros de Louis XV, mort en pleine Révolution française. C'est dire si ce pauvre animal, eh bien oui, sa disparition à lui aussi passa inaperçu.
Ça c'est sûr. David Castello-Lopez est avec nous, Stéphane aussi. Hein. Oui. Chaque jour, c'est l'origine d'une invention qui fait notre quotidien. Et alors là, votre quotidien est définitivement plein de surprises.
Ouais, hein, oui, alors c'est pas vraiment, je pense qu'il va falloir arrêter de dire que c'est les inventions du quotidien, c'est les origines des choses. Et là, c'est les origines d'une chose qui est la gloire télévisuelle de Donald Trump. Donald Trump, en fait, il était super connu quand il s'est présenté à la présidentielle américaine. Et cette gloire, il la devait à la télévision. Mais comment est-ce qu'il a pu se retrouver à la télévision? C'est grâce à un monsieur, et je vous raconterai donc cette histoire-là.
Passionnant. Stéphane,
et puis
Bouet.
Olivier Pouls, Laxoa. Alors je n'ai aucune idée.
Et vous n'avez aucune idée, ça s'entend, puisque vous venez de dire Laxoa, c'est Lachoa.
Exactement,
hein,
la bonne prononciation.
Laxoa, qu'est-ce que c'est que Lachoa?
C'est une délicieuse préparation basque, d'où cette prononciation à laquelle vous n'êtes pas habitué.
Oui, ça se présente sous quel
Vous allez voir, je vais vous donner la recette tout à l'heure. C'est un ragoût de viande, absolument délicieux.
C'est bon. Piment d'Espelette, tout ça. Comment ça, non?
Non, j'aime pas le piment.
Non, mais le piment d'Espelette, c'est très léger quand même.
Non, ça pique pas du tout. Non, et puis le piment d'Espelette, vous savez, sur les échelles de piment,
c'est
un de ceux qui est au plus bas.
C'est pas très...
Non, c'est au niveau du poivre.
Ah bon, ça va alors.
Enfin, chez son notaire, Stéphane a laissé des consignes très claires. S'il meurt avant elle, interdiction de rediffuser des extraits de Burn to be Alive. Je mourrai une deuxième fois, explique Stéphane. Notre quiz fatidique, ce sera vers 6h-10, ou plutôt vers 5h-10, parce que vers 6h-10, ça sera un tout autre quiz. Burn to be Alive, celui auquel je participe, qui n'est pas piqué des hannetons non plus. On s'en fout ?
Non. Tu t'es trompé.
C'est lutte finale, je crois que ça s'appelle.
Oui, je dis vraiment n'importe quoi. Donc j'aurais dit, notre quiz fatidique, ce sera vers 5h-10. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
À la question, qui fut le premier vice-président et second président des États-Unis d'Amérique ? Peu de chance de trouver la réponse pour cet homme qui, même dans la mort, s'est fait très discret. Il faut avouer qu'il est mort le même jour qu'un autre homme plus célèbre que lui, sa profession, ancien président des États-Unis aussi. Stéphane Bern nous raconte l'éclipsé John Adams.
Heureusement, Thomas Jefferson survit. Voici les derniers mots qu'aurait prononcés, ou plutôt murmurés dans un dernier souffle, John Adams, ce 4 juillet 1826 à Quincy, dans le Massachusetts. Il ne sait pas, et il ne saura jamais, mais il se trompe. Jefferson, son ancien vice-président et surtout successeur à la présidence des États-Unis, est mort à Monticello en Virginie, quelques heures auparavant. Deux présidents américains mort le jour du 50e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Fallait le faire. Deux pères fondateurs d'ailleurs, mais l'un est bien plus célèbre que l'autre. Après une vie passée dans l'ombre de son prédécesseur, George Washington, voilà que la mort de John Adams se retrouve éclipsée par celle du président qui lui a succédé à la Maison-Blanche en mars 1801, Thomas Jefferson, qui récupère toute la lumière. Mais revenons en arrière. Dans la famille Adams, famille de fermiers puritains du Massachusetts, intéressons-nous donc, puisque personne ne l'a fait, au troisième fils, John. Né en octobre 1735 à Braintree, futur Quincy, une banlieue rurale de Boston, il effectue de brillantes études à la faculté du coin. Harvard, c'est pas rien quand même, Harvard. Diplômé à 20 ans, John Adams se tourne vers le droit et passe le barreau avec succès en 1758. Les avocats constitutionnalistes comme lui sont très demandés dans ce contexte politique agité. Les jeunes patriotes américains, qui rappelons-le, sont encore des colons anglais, commencent à en avoir ras la casquette de subir la domination britannique qui s'exprime à travers des taxes, encore des taxes, toujours des taxes. Le mécontentement arrive aux oreilles du roi George III et du Parlement de Londres qui envoie des troupes pour mater la révolte. Mais la lutte pour l'indépendance est en marche. John Adams adopte avec conviction la cause de la Révolution américaine. Il soutient que, je le cite, « les peuples et les nations se forgent dans les feux de l'adversité ». Au tribunal, il défend les droits et libertés des colons mis en péril par la monarchie britannique. Il collabore aussi avec des journaux de Boston et condamne, avec sa plume bien trempée, le Stamp Act de 1765. Cet impôt sur les timbres va à l'encontre de la démocratie, car pour lui, les taxes ne tirent leur légitimité que du consentement populaire. Dans les années qui suivent, John Adams est élu député du Massachusetts à l'Assemblée de la colonie, puis membre du Congrès. Le message qu'il porte est sans ambivalence. Il ne sert à rien de se rabibocher avec les Anglais. Il faut aller vers une indépendance totale. C'est lui qui propose à la tête de l'armée continentale un colonel qui s'est distingué dans la guerre de 7 ans face aux Français, un certain George Washington. En juin 1776, aux côtés de Benjamin Franklin et de Thomas Jefferson, John Adams participe à la rédaction de la Déclaration d'indépendance américaine, ce qui fait de lui l'un des pères fondateurs des États-Unis. En tant qu'ambassadeur, il est ensuite envoyé à Paris, où il négocie le traité qui met fin à la guerre d'indépendance américaine en 1783, puis en Hollande et enfin en Grande-Bretagne, où il doit composer avec un souverain rancunier et un parlement britannique pas très arrangeant. 2 ans plus tard, Adams devient le vice-président du premier président de la jeune nation américaine, George Washington. Le duo est reconduit en 1792 pour un second mandat. Nul besoin de préciser qui porte la culotte dans le couple. Washington est quasi seul à la tête du pays, tandis qu'Adams est tenu à l'écart des grandes questions, à tel point qu'il écrivit dans une lettre à sa femme Abigail, « Dans sa grande sagesse, mon pays a conçu pour moi le poste le plus insignifiant qui se pourrait imaginer ». Mais la roue tourne. En 1796, Washington ne se représente pas. C'est lui, John Adams, champion du Parti fédéraliste, qui monte sur la chaise présidentielle. La fonction vient de passer sous le nez de Thomas Jefferson, membre du tout nouveau Parti républicain. La majorité n'est pas écrasante. La victoire se fait à 71 voix contre 68. Et Adams ne va pas se débarrasser de son concurrent si facilement. La Constitution exige que le candidat arrivé second dans la compétition soit de droit vice-président. Pour mener à bien cette cohabitation exceptionnelle, John Adams tente de réconcilier les fédéralistes et les républicains. Mais ça revient à mélanger de l'huile avec de l'eau. Les fédéralistes voient les républicains comme des libertins, des anarchistes, des défenseurs de la terreur, de la Révolution française. Et à l'inverse, les républicains voient les fédéralistes comme des monarchistes désireux de restaurer la domination britannique. Son style présidentiel est très différent de celui de son prédécesseur. Alors que Washington devait son prestige et son charisme naturel, John Adams cherche à avoir une même aura, mais il n'y parvient pas. Résultat, même dans son camp, il déçoit. Pour Alexander Hamilton, le chef des fédéralistes, le président fait preuve d'un égotisme écœurant. Sur la scène internationale, la partie n'est pas plus aisée. Adams tente de maintenir la neutralité de l'Amérique souhaitée par Washington, dont il a gardé le cabinet. Son pays est jeune, encore vierge des tourments de la guerre, et ne doit pas se laisser emporter dans les conflits européens. Sauf qu'en autorisant la Navy britannique à confisquer des marchandises françaises sur les navires américains, il agace fortement la France qui a aidé l'Amérique dans sa révolution, souvenez-vous de Lafayette quand même, et fustige le rapprochement entre Washington et Londres. Le président John Adams entame des pourparlers. Il est prêt à tout pour éviter d'entraîner son pays dans la guerre. Au printemps 1798, John Adams envoie une délégation en France, mais le ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, refuse de la recevoir. Impossible de négocier avec le directoire. S'ensuit une guerre commerciale et maritime qui se dispute à coups de blocus et d'attaques dans les Antilles. C'est la quasi-guerre, puisque le président américain refuse de la déclarer officiellement et qui s'achève 2 ans plus tard. Pour maintenir la paix à l'intérieur du pays, John Adams promulgue une série de lois controversées. L'une vise à rendre plus difficile l'accès à la citoyenneté américaine pour les immigrés. Une autre criminalise la publication d'articles jugés mal intentionnés envers le gouvernement. Les républicains ne sont pas contents. En riposte à l'arbitraire présidentiel, Jefferson et James Madison rédigent les résolutions du Kentucky et de Virginie. Ils mettent ainsi sur pied la théorie de nullification selon laquelle des États peuvent faire annuler des lois adoptées par le gouvernement fédéral. En novembre 1800, juste avant que s'ouvre la 4e élection présidentielle américaine, John Adams quitte Philadelphie pour s'installer à Washington, à la Maison Blanche, aux peintures encore fraîches. Dans une lettre à sa femme, celui qui en est le premier occupant écrit « Je prie le ciel d'accorder la meilleure des bénédictions à cette maison et à tous ceux qui l'habiteront par la suite. Que seuls des hommes honnêtes et sages puissent gouverner sous ce toit. »
Il s'est certainement retourné dans sa tombe le jour de l'élection de Trump.
Qui sait ? En tout cas, bien avant lui, c'est un nouveau président des États-Unis d'Amérique qui fait son entrée, Thomas Jefferson. L'arrivée au pouvoir de l'ancien vice-président d'Adams marque un tournant dans l'histoire politique du pays qui bascule du côté républicain. Si là, au départ, la défaite amère, John Adams, qui s'est retiré sur ses terres de Braintree, débute une correspondance avec Jefferson en 1812. C'est donc réconcilié que les deux hommes s'éteignent à quelques heures d'intervalle le 4 juillet 1826, le jour même du 50e anniversaire de l'indépendance américaine.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du méconnu John Adams, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Arter. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour Hélène Arter, vous êtes professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des États-Unis. Vous avez coécrit avec André Caspi l'ouvrage « Les présidents américains » paru chez Talendier. Deux pères fondateurs qui meurent 50 ans jour pour jour après la déclaration d'indépendance. Bon, ça c'est un sacré hasard quand même. Comment est-ce que l'Amérique a réagi ce jour-là ? C'était les jours de fête ou plutôt les drapeaux étaient en berne dans le pays ? Le cœur des Américains devait balancer, non ?
Ben, la question ne s'est même pas posée. Parce que nous n'étions pas à l'époque de Twitter et des chaînes d'information continue.
On l'a su que le lendemain.
Non, même c'est pire. On apprend la mort de Jefferson que le 6, donc deux jours après. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que John Quincy Adams est président et à la Maison Blanche. Donc l'information lui arrive le 6. Et il n'apprend la mort de son père, donc John Adams, que le 8.
Donc, finalement,
ça ne gâche pas la fête populaire de ce 4 juillet. Et ce n'est qu'après qu'on est dans le temps du deuil pour les deux présidents.
Alors, on parle aujourd'hui des morts plus célèbres qui éclipsent d'autres morts. Est-ce que John Adams a quand même bénéficié d'obsèques à la hauteur de la fonction qu'il occupait ou c'est Jefferson seul qui a eu droit à tous les honneurs ?
Eh non, là aussi, les choses sont plus compliquées. Jefferson avait voulu des obsèques très simples, donc familiales, dans sa propriété de Monticello, donc vous avez rappelé tout à l'heure. D'ailleurs, même les gens se sentent spoliés parce que c'est en petit comité. Les étudiants de l'université de Virginie qui l'a fondée sont extrêmement déçus et sont à deux doigts de l'émeute parce qu'ils arrivent après que le corps est mis en terre.
Oui.
Et John Adams, ça se passe un peu différemment. Les élites de Nouvelle-Angleterre et de Boston ont organisé des funérailles publiques. Il y a à peu près 4000 personnes dans le président. Et c'est le paradoxe, finalement. Mmh. Sur le moment, John Adams est davantage présent. Mmh. Mais vous avez totalement raison.
Il est
très
éclipsé,
vite,
ben oui.
Il est éclipsé.
Mais
faut...
comment vous l'expliquez? Parce que l'histoire a retenu le nom de Thomas Jefferson. Il y a même eu des films, Jefferson à Paris. Enfin, il est venu en France, quand même. Enfin, cela dit, John Adams aussi. Et personne n'en a jamais entendu parler. Enfin, ici.
Vous avez très bien résumé les choses. L'un a un charisme extraordinaire, l'autre moins. L'un est un fondateur et a tout inventé. L'autre, Adams, est un héritier. Hein. Il n'est que l'héritier de George Washington. Et puis, Jefferson, c'est quand même le président des grandes décisions. C'est lui qui achète la Louisiane. C'est quand même quelque chose qui double la taille du pays, qui ouvre la colonisation vers l'Ouest. C'est vraiment l'homme qui a tous les talents de sa génération. C'est sans doute le plus brillant, le plus charismatique.
Donc c'est juste finalement qu'il ait été reçu.
C'est juste. Ah oui.
Mais alors, ce qui est étrange, c'est que d'Amérique nous viennent de se créer mode ou vogue en ce moment avec la woke et la cancel culture. Aujourd'hui, c'est Jefferson que l'Amérique cherche à masquer. La municipalité de New York a annoncé le mois dernier qu'elle allait retirer une statue de Thomas Jefferson de la salle de son conseil parce qu'il avait évidemment, il faut remettre les choses dans son contexte, il était esclavagiste. Est-ce qu'il y a une forme d'anachronisme dans ce type de décision?
Je crois que ça tient à à la culture politique qu'ils représentent. Adams, c'est un homme qui vient du Massachusetts, c'est un puritain dans un Nord qui est en train d'abandonner l'esclavage au moment où il est en responsabilité. Jefferson, c'est la culture virginienne et c'est la culture du Sud. Et finalement, ça correspond à des équilibres d'une époque. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la culture virginienne esclavagiste est quelque chose qui forcément est remis en question. Donc c'est logique, finalement.
C'est logique, mais c'est en partie injuste parce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'on juge avec des yeux d'aujourd'hui des événements qui se sont produits.
Tout à fait. Et je crois que la question à se poser, c'est pour les contemporains, finalement, ils représentaient deux faces de l'Amérique. Sur la question de l'esclavage, mais aussi sur le rapport qu'on devait entretenir à l'État. Et on voit bien que c'est une question qui a une très longue filiation et qui explique pourquoi Jefferson est aujourd'hui si connu et populaire, parce qu'il invente cette conception d'un État limité où on met en avant le droit de l'individu, le droit des États. Et on voit tout à fait la filiation avec le Parti républicain, avec le Tea Party. Le message de Jefferson en la matière, il parle. Et de l'autre côté, Adam, ça serait plutôt le camp de nos démocrates d'aujourd'hui qui estiment qu'il faut un gouvernement fédéral.
Mais un John Adams, c'est un démocrate mou quand même, hein.
Vous êtes un peu dur. Oui. Je pense qu'il était modéré par son caractère. C'était un homme de l'écrit. Il est un des rédacteurs de cette déclaration. Et donc, je pense qu'il avait une vision du monde plutôt littéraire, intellectuelle, qui n'était pas celle des grandes passions.
Dans votre ouvrage, Les présidents américains, vous nous rappelez que le fils de John Adams, John Q. Adams, a lui aussi été élu président des États-Unis. Comme son père, il semble pas être passé à la postérité.
Il a le même problème, c'est qu'il est entouré de présidents plus spectaculaires et charismatiques. Mais ceci dit, c'est à lui qu'on doit la fameuse doctrine Monroe qui cadre d'une certaine manière l'isolationnisme américain. À l'époque, il est secrétaire d'État du président Monroe. C'est quelqu'un qui est très versé en matière de politique étrangère. Mais qui, évidemment, face à la doctrine Monroe, pèse de peu et puis surtout va entrer en action un président incontournable qui est Andrew Jackson, le fondateur du Parti démocrate. Et là, évidemment, il n'y a pas photo, comme on dirait aujourd'hui.
Pauvre Adams.
En fait, vous écrivez qu'au XVIIIe et XIXe siècle, tous les successeurs de George Washington, à l'exception de Jefferson ou d'Abraham Lincoln, ont sombré dans les oubliettes de l'histoire. À l'époque, la réputation des présidents américains ne franchissait pas l'océan Atlantique.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être pour deux raisons. La première, c'est que le pouvoir est au Congrès. C'est le Congrès qui fait les présidents. Et d'ailleurs, c'est le Congrès, par un tour de passe-passe un peu douteux, qui choisit Adams lorsqu'il devient président. Et puis surtout, les États-Unis sont un petit pays sur la scène internationale. Donc finalement, ils ont une présidence à l'image de l'envergure internationale, limitée.
Mais à quel moment, justement, le président américain connaît l'envergure internationale qu'on lui connaît aujourd'hui?
Bah, c'est assez facile à dater, en fait. Nous sommes à la fin du 19e siècle, quand les Européens prennent conscience que les États-Unis sont une grande puissance économique, et lorsqu'ils écrasent l'Espagne dans la guerre de 1898 et commencent à avoir une politique internationale.
À cette époque, c'est quoi les critères pour prétendre à la fonction présidentielle ?
Ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain âge, qui est l'âge de la majorité et un peu plus. On est à 35 ans. Il faut être citoyen américain. Il faut être né américain ou l'être devenu quand les États-Unis se sont créés. Donc ça exclut tout Européen. On parlait de Lafayette tout à l'heure, mais on ne voulait surtout pas qu'un Européen soit en action. Et puis il faut toujours 14 années de résidence sur le sol américain pour bien connaître le pays.
Je le racontais dans mon récit, mais John Adams a été le tout premier locataire de la Maison Blanche. Pourquoi est-ce que on a décidé d'installer la capitale fédérale à Washington et en quittant Philadelphie? C'est trop marqué, Philadelphie?
Alors, c'est une question à la fois de place, parce qu'il faut construire de nouveaux équipements pour accueillir une nouvelle administration. Il s'agit de, à la fois, satisfaire les gens du Nord, du Sud, qui ont des cultures politiques différentes. Il faut que ça soit géographiquement pratique, il faut avoir du terrain. Donc c'est l'objet de débats et de rivalités extrêmement fortes entre les villes. Et puis c'est finalement Washington, l'homme, qui trouve en partie la solution en donnant des terrains. Et on installe dans ce nouveau lieu concret, ex nihilo, grâce à un architecte français d'ailleurs, et qu'on bâtit cette ville. Mais ça ne vous aura pas échappé qu'on est quand même culture sudiste, beaucoup plus que culture nordiste. C'est la marque des hommes comme Washington et Jefferson, pour le coup.
Stéphane le rappelait, à l'époque, fédéralistes et républicains s'opposent au Congrès et pour la présidence. Quand apparaissent les deux grands partis qu'on connaît, nous, aujourd'hui, les démocrates et les républicains?
Alors, les années Jackson, pour le Parti démocrate, donc c'est un parti nationaliste, expansionniste, qui se crée pour offrir une nouvelle offre alternative. Et puis 1854, le Parti républicain, autour de ceux qui refusent l'esclavage. Donc, on voit que ça se structure, finalement, démocrate-républicain, à partir des années 1850. Et puis qu'ensuite, il y aura des réalignements politiques, puisque finalement, les partis démocrates des origines ressembleraient plutôt à nos républicains d'aujourd'hui, et les républicains d'hier ressembleraient plutôt à nos démocrates d'aujourd'hui.
Mais il y a toujours eu cette bipolarité, en tout cas. Ça n'avait jamais été multiparti.
Non. Dès le départ, il y a eu ces deux grands partis. Je crois que ça tient au fait que c'est un pays fédéral, donc il faut être capable de proposer des candidats dans chacun des États, ce qui est un exercice colossal. Et il faut avoir derrière soi des structures politiques suffisamment fortes.
Dans votre livre, vous racontez que John Adams a refusé d'assister à l'entrée en fonction de son successeur Thomas Jefferson. Ça nous rappelle un autre mauvais perdant, un certain Donald Trump. Comme lui, John Adams avait crié à l'élection truquée.
Oui.
Mais truquée en quoi?
Mais parce qu'il avait le sentiment que finalement le parti de l'opposition, donc les amis de Jefferson, avaient fait une campagne qui était violente, où il y avait des arguments qui n'étaient pas exactement la vérité. Donc il avait le sentiment...
C'est une campagne, quoi.
Et oui et non, parce que ces campagnes du 19e siècle pouvaient être violentes dans l'attaque personnelle. Oui, c'était pas quand même un club de gentlemen. Donc il avait le sentiment. Il faut pas oublier non plus que ce sont des hommes qui se connaissaient tous très bien. On a rappelé Abigail Adams. Quand Jefferson perd son épouse, on est à la fin de la Révolution, c'est Abigail Adams qui le sent un peu triste et qui dit à son mari, on pourrait l'inviter, le soutenir, etc. Donc ils ont des relations interpersonnelles et donc ils ont le sentiment d'une trahison finalement. Alors vous avez expliqué très justement, ils se rapprochent une fois ex-président.
Par leur correspondance.
Par leur correspondance, ils ont des relations amicales qui se renouent. Mais il y a ce sentiment à la fois de la trahison personnelle et de la violence du combat politique qu'on oublie un peu parce qu'on les regarde avec angélisme, avec deux siècles d'écart. Mais c'était des campagnes extrêmement violentes.
Enfin, ils ont été réunis dans la mort puisqu'ils sont morts
on le,
soit le même jour. Ils sont morts le même jour.
Encore mieux.
Merci Hélène Narter de nous avoir emmenés sur les traces des pères fondateurs américains. Je rappelle que votre ouvrage « Les présidents américains », coécrit avec André Caspi, est disponible aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui font parfois des bruits bizarres.
Kikeriki, kikeriki.
Bé, bé.
Coin, coin.
Oui, parce qu'aujourd'hui, Clémentine, nous allons parler des animaux. Des bruits, il y en a eu beaucoup, hein, puisque vous nous racontez la ménagerie royale de Louis XIV, les animaux du roi, à l'occasion d'une fabuleuse exposition qui se tient en ce moment même au château de Versailles.
Ah oui, courez-y, et rien que l'affiche est très très aguichante. Hein. C'est Louis XIV qui avait fait aménager à proximité du Grand Canal une ménagerie où se côtoyaient les animaux les plus rares et les plus exotiques. Mais de tout temps, les souverains se sont offerts des animaux comme cadeaux diplomatiques. Je crois que ça se fait plus tellement à notre époque, mais en tout cas autrefois, la classe absolue entre souverains, c'était de s'offrir un éléphant. C'était un cadeau particulièrement prisé.
Mais tu le mets où ensuite ?
Ah bah dans ta ménagerie justement. Ah oui, alors Abri-la-Base, le premier éléphant vu en Europe depuis ceux d'Hannibal, fut envoyé à Charlemagne depuis Bagdad par le sultan Haroun al-Rachid. Saint-Louis, quand il rentre de Syrie, ramène un éléphant pour l'offrir à Henri III d'Angleterre, parce que lui, Saint-Louis, n'était pas très ménager, il ne s'intéressait pas. L'exposition de Versailles présente d'ailleurs le squelette du premier éléphant de Versailles, une éléphante offerte à Louis XIV par le roi du Portugal et qui vécut 13 années à Versailles. Mais pour ma part, ma préférence va à un animal qui se trouve toujours sur notre sol et auquel plus personne ne prête attention. Et oui, son squelette est exposé dans la galerie de paléontologie du Jardin des Plantes. Alors ici, les squelettes de dinosaures et de mammouths accaparent toute l'attention des visiteurs, naturellement, et perdus parmi ces immenses carcasses, l'humble squelette de rhinocéros mériterait pourtant un temps d'arrêt, parce que lui, contrairement au mammouth, il a un petit nom. Il s'appelait Pralin. Voilà.
T'es joli.
Cet animal fut offert à Louis XV, qui rêvait d'avoir un rhinocéros, par le duc de Pralin.
Le duc de Choiseul-Pralin.
Exactement. C'est pour ça que le rhinocéros s'appelle Pralin, à cause de son convoyeur, en somme. Et il arriva à Versailles le 11 septembre 1770, après un voyage de 9 mois, pauvre Pralin. Alors, il y avait 2 autres rhinocéros qui l'avaient précédé sur notre sol, on n'en avait plus vu depuis l'Antiquité. Le premier se nommait Ganda. Il appartenait au roi du Portugal, qui décida de l'offrir au pape. Et en 1516, le bateau qui devait convoyer l'animal en Italie fit escale sur l'île d'If. Et comme François Ier était en pèlerinage dans le coin, à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, il a fait le déplacement pour aller voir un rhinocéros. Il n'en avait jamais vu. Bon. Puis il y a eu le rhinocéros du capitaine de vaisseau Van der Mer, un malin marin hollandais qui gagnait sa vie en exhibant son animal en Europe. Et en 1749, à la foire Saint-Germain, en plein Paris, on vit donc pour la première fois une créature de cette espèce. Les gens étaient évidemment fascinés. Mais Pralin, le rhinocéros de Van der Mer, il ne fit chez nous qu'un court séjour, ce qui permet de qualifier Pralin de premier rhinocéros français. Ah, quand même, oui, ça a une autre gueule. Alors, en 1792, les sans-culottes, ayant envahi le château de Versailles, s'en prennent aussi à la ménagerie, naturellement. Et le rhinocéros royal reçoit un coup de sabre au flanc. Meurt-il pour autant des suites de cette blessure ?
Non.
Ah, brûlante question sur laquelle aujourd'hui encore s'interrogent d'éminents paléontologues. Donc je me suis rendu sur place, vous pensez bien. Certains avancent que l'entaille encore visible faite par le sabre s'est recalcifiée. Donc la bête aurait survécu sans séquelles à cet attentat politique des sans-culottes. D'autres évoquent une note où le naturaliste Cuvier raconte que l'animal laissé à l'abandon dans son bassin est mort le 2 Vendémiaire en 2, comprenez le 23 septembre 1793, hein, juste après la Terreur. Quoi qu'il en soit, sa dépouille fut transférée au Jardin des Plantes le 25 septembre. Hélas, en 2 jours, la bête avait considérablement gonflé. Donc l'illustre naturaliste Daubenton, lui, ne le savait pas, il n'en a tenu aucun compte lorsqu'il a pris les mensurations de Pralin. Il a donc communiqué à ses subordonnés les mesures d'un animal complètement boursouflé. N'osant pas remettre en cause les mesures prises par le maître, les taxidermistes vont créer un animal empaillé bien plus gros que nature. Ah. C'est lui qui est exposé aujourd'hui à la Grande Galerie de l'Évolution. Il est trop gros, à quelques encablures de son squelette. Vous pouvez aller l'y voir.
L'ivoire.
Et oui.
Je lui dis, on pourrait
l'ivoire. Magnifique. Ah, c'est très beau. Non, c'était pas.
Ça donne des points pour le quiz, non ?
Alors, pralin, en tout cas, messieurs, retenez bien ce nom. Un malheureux rhinocéros de Chandernagor, tout à la fois victime de la révolution et du respect de la hiérarchie. C'est
magnifique,
une tragédie.
Beau. On vous remercie, Clémentine, et je rappelle l'exposition Les animaux du roi qui se tient actuellement au château de Versailles jusqu'au 13 février prochain. Deux éléphants dans un magasin de porcelaine. C'est le quiz à suivre.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est la séquence d'Historiquement vôtre qui met en lumière les lacunes des membres de cette émission et surtout de Clémentine Portier-Kaltenbach qui s'enorgueillit de tout connaître alors que d'évidence, elle ne connaît pas tout puisqu'elle s'exclamait dernièrement au sujet d'un traité pourtant fort célèbre.
Quoi ? Sur l'art de péter ?
Quelle inculture ! Comment faites-vous ? Si vous ne l'avez pas lu, vous improvisez ? Jouons à perdre tout bien. Stéphane, la première question est pour vous. Vous connaissiez ce traité, je me souviens, vous aviez remporté cette édition du quiz. Oh la main. Question numéro 1.
Oh la main.
Je ne sais pas si actuellement le prince Harry trouve un peu grâce à vos yeux en ce moment. On sait qu'à un moment, vous étiez un petit peu...
En froid.
Vous étiez en froid avec le prince Harry. Mais en froid unilatéral, puisque lui ne le savait pas. Mais le 12 janvier, c'est la journée mondiale Kiss Ginger Day. Qu'est-ce que c'est la journée mondiale Kiss Ginger?
Kiss and ginger,
c'est le gingembre.
Kiss a ginger. Bah, essayez de deviner.
Embrasse un morceau de gingembre.
Embrasse un gingembre.
Le gingembre, c'est quelle couleur?
C'est jaune. Non, c'est couleur chair.
Ah là, j'ai l'impression que la régie veut déjà vous enlever le point avant même que vous ayez formulé une réponse intelligible à la question.
Kiss,
qui n'a pas été formulée.
Kiss and...
Non, kiss a ginger. Kiss a ginger.
Ah, embrasse un...
Un blanc, un jaune, un rose.
Harry !
Un roux.
Un roux. Oh, j'ai presque envie de vous donner le point. Pourtant, la question n'a encore été posée. Bon, alors bref.
Embrasse un roux, bien
Ma
sûr.
Ma question, est-ce que le 12 janvier, cette journée mondiale Kiss and Ginger Day, embrasse un roux ? Est-ce que c'est une initiative du prince Harry ?
Non, parce que voyez-vous, ça serait mis en général au crédit de ce jeune prince qui a mis aussi d'autres choses à l'honneur, comme des uniformes de l'Afrique Corps. Mais on va pas revenir sur cet épisode. Non, écoutez, je ne crois pas que... En tout cas, mondialement, je ne crois pas me souvenir que c'est le 12 janvier qu'on embrasse un roux.
Donc votre réponse, c'est...
Non.
Vous avez... gagné !
Je me suis permis de vous faire répéter votre réponse, puisque la journée Kiss Ginger Day embrasse un roux existe bel et bien, et elle intervient bien le 12 janvier. En revanche, ce n'est
pas lui.
Harry qui est à l'origine de cette journée. Elle a été créée à l'occasion de la diffusion d'un épisode de South Park, la série télé particulièrement virulent envers les roux. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le 2 février 2013, à Notre-Dame, on a béni 8 nouvelles cloches. Elles avaient des prénoms. Est-ce qu'il y avait une cloche Jean-Marie ?
Oui, c'est bien possible, parce que dans les cloches, le bourdon, c'est Emmanuel. Je pense que ça doit être... Il n'y a pas Marie-Thérèse ou Marie-Antoinette. En tout cas, Marie-Antoinette et Louis XVI devaient être les parrains des deux autres grandes cloches.
Cloche,
ah bah, bien sûr, toutes les cloches parisiennes ont des noms, ont des parrains.
C'est dans quelle année ?
Quoi donc ?
C'est en 2013, c'est les 8 dernières.
Bon, je crois alors, pas que ce soit Jean-Marie, je pense que c'est
oui,
Marie.
Oui, bien sûr qu'il y en a une qui s'appelle Jean-Marie, tout à fait, bien sûr, possible.
Stéphane, vous dites que ça n'existe pas. Clémentine, la question
que
vous êtes
possible.
Adressée,
oui.
Il y a une cloche qui s'appelle Jean-Marie.
Oui.
Vous avez gagné !
Et c'est une bonne réponse. Écoutez,
ouais, les gars.
Écoutez Jean-Marie qui nous parle. Jean-Marie faisait 782 kilos et donnait un la dièse. Il y avait aussi Maurice, Denis, Marcel, entre autres. Jean-Marie était un hommage à qui, d'après vous ?
Ah, Jean-Marie Lustiger.
Lustiger, le cardinal.
Ça mériterait presque un point supplémentaire.
Mais il y a une guerre aussi. La grande-duchesse de Luxembourg a donné son nom
à... Ah, voilà. La grande-duchesse.
À une autre cloche.
Et elle était contente.
Et celle du Sacré-Cœur, je crois, est une des plus lourdes de France. C'est la Savoyarde. C'est la Savoie qu'il a offert à Paris au lendemain de la Commune. Il y a de très belles histoires de cloches.
On n'offre plus des cloches. Hein.
Ça devient plus rare. Celle de la Saint-Barthélemy, elle existe encore, mais la pièce qui frappe contre la cloche, elle a tellement usé le côté qu'il est quasiment troué.
Alors justement,
il y a des cloches républicaines aussi.
Un bel enchaînement pour ma prochaine question. Stéphane, elle est pour vous. Attention, chaque mot compte. Marcel Proust avait investi son argent personnel dans une maison de tolérance pour homosexuels. Vrai ou faux ?
Non, il dépensait un peu d'argent, mais je ne crois pas qu'il ait investi. Je ne crois pas qu'il était actionnaire de cette maison de tolérance.
C'est la question que je vous pose.
Je ne crois pas. Je crois qu'il avait... En revanche, il la fréquentait, parce qu'il y a quelques années, on a publié les archives de la police parisienne et on a retrouvé la fréquentation, oui, de Marcel Proust dans ces maisons de tolérance pour homosexuels, des lieux spécialisés.
Et de toute façon, tout ça aurait été parfaitement officieux puisque de tels établissements étaient interdits. Ouais. Donc il aurait mis des billes dans
Il a mis autre chose, mais pas les billes. Et en tout cas, il n'avait pas investi. Voilà.
Donc vous répondez faux.
Vous avez perdu.
Ouais. Et vous avez perdu, Stéphane. Ah oui, quelle mauvaise connaissance des maisons de tolérance gay. Franchement, Stéphane, il avait donné de l'argent à un ami, Albert Le Cusia, pour qu'il lance une maison de plaisir gay. Ah oui. On n'appelait pas comme ça à l'époque.
Ah oui.
C'était l'hôtel Marigny. Proust a investi de l'argent, mais aussi donné du mobilier hérité de ses parents. Il travaillait des militaires venant faire des petits extras. Il gagnait, paraît-il, en une heure ce que l'armée leur donnait en un mois. Tout ça dans le plaisir. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Charles Perrault, pour la cour de Louis XIV, transcrit des contes qui n'existaient auparavant qu'oralement. Pour Le Petit Chaperon Rouge, il existait une version italienne où le cordon de la sonnette de la maison de la grand-mère n'était autre que l'intestin de la grand-mère. Vrai ou faux ?
Oh, dites donc, ça va loin cette question. Ce qui me paraît étrange dans votre histoire, c'est qu'il me semble que Le Petit Chaperon Rouge, c'est un conte de Grimm à l'origine et non pas un conte italien. Donc la bobinette et la chevillette qui chaira dans le conte italien auraient été constituées de l'intestin de la grand-mère déjà dévoré par le loup. Mmh. Écoutez, c'est vraiment... Comment voulez-vous que je le sache ? Je vous dis déjà, ça, je trouve surprenant que ce soit un conte italien en étant cultivé. Donc oui, tire la chevillette en intestin de grand-mère et la bobinette chaira, mais bien sûr. Donc je réponds oui à cette intéressante question.
Elle répond oui, Stéphane, voyons voir.
Vous avez gagné.
Et elle l'emporte.
Elle est trop forte.
Elle l'emporte.
Elle est forte.
Connaissance littéraire.
Non, c'est en plus, quand elle ne sait pas, elle a une bonne intuition.
C'est fou.
Elle est imaginative. Non, elle est
forte. Vous devriez remplir des grilles de Romillon pour nous. Je suis sûr. Ah, les trompettes de la renommée. Mais vous les avez méritées. Mais pourquoi ?
Non, écoutez, franchement, les trompettes de la renommée sur les tripes de la grand-mère de Petit Chaperon Rouge italien.
Et moi, j'ai trébuché sur les maisons de tolérance.
Oui, vraiment, vraiment. Alors, vous savez pourquoi je vous pose la question ? C'est intéressant. Charles Perrault va rendre les contes moins gore que les originaux. Il fait disparaître une question que Le Petit Chaperon Rouge pose au loup, où il dit... « Oh, mère grand, que vous avez une grande queue !» Et le loup disait « C'est pour mieux chasser les mouches, mon enfant !» Et comme quoi, Perrault a contribué à aseptiser ses contes ancestraux. C'est une belle victoire pour Clémentine Portier-Kaltenbach.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et c'est un excellent choix. Chaque après-midi, avec mon facétieux complice, Mathieu Noël, on vous rend l'histoire plus ludique, plus rieuse aussi.
Oui, surtout aujourd'hui, vu notre thème, que des Maccabées. Même mon personnage, il est mort pour une fois.
C'est normal, Mathieu. Aujourd'hui, on parle de ces personnages célèbres dont la mort a été éclipsée par la mort d'un personnage encore plus célèbre qu'eux. C'est comme avec nos anniversaires qui arrivent.
Ah oui, j'ai hâte. Vous le 14, moi le 13.
Ben justement, Mathieu, réfléchissez. Qui va recevoir le plus de messages, d'après vous ?
Ben, vous.
Ben, quoi ? Vous êtes vifs, parfois. Comme vous, ils ont eu affaire à plus connu qu'eux. Après le président des États-Unis, John Adams, qui n'a rien à voir avec la famille, mort le même jour que Jefferson, son successeur à la Maison-Blanche. Eh bien, maintenant, je vous raconte Ginette Neveu, une violoniste décédée dans les airs, le même jour, au même endroit, dans le même avion que Marcel Cerdan, le boxeur, qui lui a volé la vedette ce jour-là. Mmh. Quant à vous, Mathieu, vous reviendrez sur le destin de Jean d'Ormesson.
Oui, qui en temps normal aurait eu droit à 2 semaines d'hommage national s'il n'avait pas eu l'idée saugrenue de décéder le même jour que Johnny. Noir, c'est noir. Et vous verrez, je vous raconterai, c'est précisément ce qu'il redoutait.
Sans oublier nos chroniqueurs qui, eux, ne redoutent et surtout ne doutent de rien, c'est David Castel-Lopez qui nous raconte les origines de la gloire télévisuelle.
Donald Trump.
Donald Trump.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient d'un monsieur qui est beaucoup moins connu que lui, mais qui a fait sa gloire télévisuelle. Et donc, on accuse un petit peu ceux qui n'aiment pas Donald Trump de l'avoir amené au pouvoir. En fait.
Olivier Pouls.
C'est du basque.
Oui, c'est du basque. C'est une grande spécialité qu'on mange du côté d'Espelette, parce que ça contient évidemment ce fameux piment, un délicieux ragoût basque dont je vous donnerai l'histoire et évidemment la recette.
Enfin, s'ils me devancent dans la tombe, je leur fais cette promesse solennelle, j'irai arroser leur tombe au Viandox. En mémoire de la lutte finale, ce quiz fratricide qui nous aura tant divertis et ou humiliés. Ça sera en toute fin d'émission, mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Si Édith Piaf a perdu l'amour de sa vie, Marcel Cerdan, dans un crash d'avion, la France a également perdu ce jour-là dans les airs une autre star au doigté plus délicat, la plus grande violoniste du XXe siècle, à la carrière aussi brillante qu'éclair. Stéphane Bern nous raconte l'éclipsée, Ginette Neveu.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi,
l'homme auquel Édith Piaf s'adresse dans son hymne à l'amour, c'est son amant, Marcel Cerdan, qu'elle a rencontré dans un cabaret parisien. Quand elle chante pour la première fois en septembre 1949, ce qui sera l'un de ses plus beaux succès, elle ne sait pas que la vie va lui arracher son grand amour très prématurément, à peine 6 semaines plus tard. Le 28 octobre, le boxeur de 33 ans trouve la mort dans un crash d'avion alors qu'il se rendait aux États-Unis pour retrouver son âme sœur. Sa disparition fait les gros titres de la presse et laisse la France sous le choc. Édith Piaf aurait été jusqu'au bout du monde pour lui. Son chagrin est immense. En réalité, c'est presque un double deuil pour la môme. Car dans le vol Air France 009, à bord du Constellation, se trouvait également au milieu des 36 autres passagers Ginette Neveu. « J'aurais voyagé des milliers de kilomètres pour l'écouter », écrit-elle dans son autobiographie. Éclipsée par le bombardier marocain, l'homme aux mains d'argile, Marcel Cerdan, Ginette Neveu, la plus grande violoniste du siècle, partait, elle, pour sa grande tournée américaine. Malheureusement, la trajectoire de cette légende de la musique fut brisée en plein vol. Mais revenons en arrière. À 5 ans et demi, Ginette Neveu donne son premier récital public. L'enfant prodige, née à Paris en août 1919, baigne dès le berceau dans la musique. Elle est la petite nièce de l'organiste et compositeur Charles-Marie Vidor. Sa mère, Marie-Jeanne, professeure de violon, lui apprend très tôt à maîtriser l'archet et à dompter les cordes. Elle l'envoie ensuite se perfectionner chez la célèbre Lynn Talluel. Ginette n'a pas 8 ans quand elle interprète le premier concerto en sol mineur de Max Bruch-Salgavo à Paris. À cet âge-là, on n'a peur de rien. Et si ? La petite Ginette a sacrément le trac. Pour surmonter son appréhension, elle trouve une technique étonnante. Elle travaille debout sur une table. Si elle est capable de vaincre le vertige, alors elle peut affronter celui d'être en face d'un public. Et ça fonctionne. La virtuose précoce rafle toutes les récompenses. En 1928, elle obtient le premier prix de l'École supérieure de musique de Paris ainsi que le prix d'honneur de la ville. 2 ans plus tard, elle n'a alors que 11 ans et entre au Conservatoire de Paris. Il ne lui faut que 8 mois pour remporter le premier prix de violon. Un record de rapidité inégalé. Parallèlement, elle étudie la composition avec Nadia Boulanger, l'une des maîtres de la musique les plus réputées. À 14 ans, elle compose un caprice, 3 sonates pour violon, et débute l'écriture d'un concerto. La petite a certes du talent, mais elle travaille sans relâche. Perfectionniste, elle ne s'arrête parfois de jouer qu'avec le cou en sang. Dans les années 1930, Ginette Neveu remporte de prestigieux concours. Elle décroche notamment le premier prix du concours international Henryk Wieniawski de Varsovie, auquel elle a pu participer grâce à l'aide financière de son professeur. Dans sa robe blanche en popeline, elle fait figure de petite fille modèle. Pourtant, elle n'en a ni le caractère, ni les traits. En réalité, elle est plutôt de nature désinvolte. En vacances, Ginette joue au ping-pong et à la pétanque. Plus tard, ses camarades le surnomment le gladiateur pour ses cheveux courts, ses robes de vestale romaine et ses épaules larges. Son apparence androgyne alimente des rumeurs d'homosexualité. Ah, dès qu'on ne rentre pas dans le moule, eh bien, ça fait jaser. Une femme doit être une femme. On dit qu'elle joue comme un homme. Sa puissance sonore est telle que la presse de l'époque qualifie son jeu de viril. Mais la brillante carrière internationale qui s'offre à Ginette Neveu
est interrompue par une affaire d'homme, la guerre. Elle refuse des engagements en Allemagne et préfère jouer avec son frère Jean, qui devient son partenaire attitré. C'est avec lui qu'elle enregistre la sonate pour violon et piano de Debussy, ainsi qu'une version du Tzigane de Ravel. En 1943, à Bordeaux, le compositeur Francis Poulenc crée pour elle une œuvre bouleversante, une sonate qui rend hommage à Federico Garcia Lorca, le poète espagnol homosexuel fusillé par les franquistes. La paix revenue, les chefs les plus prestigieux, Walter Suskind, Hans Rosbaud ou encore Charles Munch et Sir John Barbirolli font appel à elle. En qualité de soliste, Ginette Neveu sublime les plus grandes pages du répertoire classique. Beethoven, Brahms, Sibelius. Le poème pour violon et orchestre de Chausson est l'un de ses chevaux de bataille. Dans la seule archive filmée qui nous reste d'elle, disponible sur Internet, on peut la regarder jouer dans toute sa splendeur. Et puis, il y a cette année 1949, une année qui s'annonce exceptionnelle. Dans son journal intime, Ginette Neveu se confie « Je sens que quelque chose m'arrive, une évolution en moi, ou plutôt en mon art ». Elle est au firmament de sa carrière. Le 11 août, elle fête ses 30 ans avant de se préparer pour sa grande tournée américaine fin octobre. Elle travaille 5 heures par jour sur ses deux violons, son Stradivarius et son Guadagnini. Le 20 octobre à Paris, elle donne son dernier récital salle Pleyel. Le titre est de mauvais augure, concert d'adieu. Ah. Adieu parce qu'elle dit au revoir au public parisien qu'elle quitte provisoirement pour de longues tournées à l'étranger. 7 jours plus tard, sur le tarmac de l'aéroport d'Orly avec son frère Jean, Ginette Neveu fait la connaissance de Marcel Cerdan. Elle lui montre son Stradivarius. Le boxeur est impressionné par l'instrument qu'il prend dans ses grosses mains. Les flashs de photographes immortalisent la scène détonnante. Il faut avouer que la poigne du boxeur contraste avec la préciosité de l'objet. Cerdan part affronter The Raging Bull et retrouver Edith Piaf. Ginette et Jean partent, eux, pour une immense tournée. Mais la vie en décide autrement. La météo est épouvantable, plan de vol est modifié. L'atterrissage prévu aux Açores vers 2h du matin ne se déroule pas comme prévu. L'avion dans lequel ils ont pris place s'écrase dans la montagne. Marcel Cerdan et Ginette Neveu périssent dans le crash. La mort du premier a éclipsé celle de la seconde. Mais ils survivent dans nos mémoires. Ce qui n'est pas le cas des 46 autres passagers et membres d'équipage du Constellation.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Ginette Neveu, nous sommes avec la violoniste Marina Chiche. Bonjour Marina.
Bonjour.
Bonjour Marina Chiche, vous venez de publier un très beau livre, Musicienne de légende, de l'ombre à la lumière, coédité par France Musique et les éditions First. En l'ouvrant, on lit cette première phrase, tout commence avec Ginette. C'est Ginette Neveu qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Absolument. Absolument, l'aventure a commencé quand je me suis intéressée à son parcours. En 2019, on a fêté le 100e anniversaire de sa naissance, puisque Ginette Neveu, c'est 1919-1949. Mais elle a eu le temps de marquer l'histoire du violon, l'histoire de la musique. Et donc, c'est la grande violoniste française. Donc, évidemment, immanquablement, moi, je me suis construite avec ce modèle.
Mais elle est aussi votre modèle comme source d'inspiration, comme violoniste, pas seulement pour écrire ce livre.
Exactement, c'est juste. Alors, donc, effectivement, j'ai commencé à enquêter autour d'elle en 2019. Et là, j'ai découvert la thématique des femmes et de la musique. Une thématique que je n'avais pas de manière consciente, puisque je me suis construite au-delà du genre. C'est-à-dire, moi, j'essayais d'être la meilleure violoniste possible, aller au-delà de moi-même pour la me consacrer à la musique, mais je n'avais pas compris qu'il y avait sans doute quand même quelque chose de sacrément systémique. Et en étudiant la vie de Ginette Neveu, je me suis naïvement posé cette question. Quelles avaient été les grandes violonistes avant elle, qui avaient permis à sa carrière d'éclore ? Et là, je suis tombée sur la thématique, pensant trouver une poignée de pionnières, j'ai découvert une multitude de femmes plus exceptionnelles les unes que les autres, dont on ne m'avait jamais raconté les histoires.
Et oui, parce que c'est tout l'objet du récit de Stéphane. La mort de Ginette Neveu est quand même éclipsée par celle du boxeur Marcel Cerdan, dans le même accident. Alors, Marcel Cerdan, c'est un immense boxeur, mais qu'est-ce qui explique que les journaux n'aient pas mis en avant la disparition de Ginette, alors qu'elle était la plus grande violoniste de son temps? Ça paraît fou.
Alors là, on est peut-être sur une autre thématique que celle du genre. On est sur le sport versus la musique. Versus,
oui, voilà. Oui.
Donc, à mon avis, c'est ça qui s'est passé au moment de la disparition de Ginette Neveu. Et Ginette Neveu, paradoxalement, elle a quand même, elle est passée à la postérité par son caractère si exceptionnel, peut-être aussi par l'aspect tragique de son décès, qui fait que l'histoire retient des fois de manière très arbitraire une personnalité versus une autre.
Mais il y a une chose bouleversante, c'est qu'aucun des 48 passagers, pilotes et membres d'équipage du vol, n'a survécu. Mais le violon de Ginette Neveu, lui,
a connu une véritable épopée. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, Marina
Oui,
Chiche?
Elle part pour une grande tournée aux États-Unis. Et elle avait donc ses deux violons, tristement, dans cet avion. Hein, que, voilà. Et on raconte qu'au moment où ils ont exploré les débris de l'avion, ils n'ont pas retrouvé les violons, mais on raconte qu'un paysan aurait récupéré peut-être ce violon. Mais après coup, ils n'ont pas pensé à enquêter sur le fait qu'il y avait ce paysan qui jouait ce vieux violon, parce que ça avait l'air d'être un vieil objet. Donc ça, c'est la première histoire qui est complètement dingue. Et la deuxième, c'est que plus tard, on a ramené la volute, donc c'est la tête du Guadagnini, qu'on a montré notamment dans l'émission Le Grand Échiquier, à Étienne Vatelot, qui a identifié donc, cette volute du Guadagnini. Donc sans doute, en fait, que soit des débris du Guadagnini, et peut-être que ce violon Stradivarius serait en train de circuler dans des mains innocentes. Donc voilà, ça a créé une légende folle.
Dans votre livre, vous expliquez que l'historiographie a relégué au second rang des musiciennes de talent parce qu'elles étaient femmes, et que Ginette Neveu est en fait la seule figure à émerger comme ça dans les livres sur les grandes violonistes. C'était une musicienne réellement singulière. Qu'est-ce qui la distingue? Qu'est-ce qui fait qu'elle a été la première à marquer les esprits?
Les gens qui l'ont entendue jouer en vrai disaient qu'elle était possédée par sa musique. C'est-à-dire qu'elle était hors d'elle-même, avec quelque chose de presque diabolique des fois dans cette manière d'être complètement traversée par la musique qu'elle jouait. Et elle avait un charisme fou, comme on dirait. Donc, elle a marqué l'histoire parce qu'elle a remporté ce grand concours Wieniawski à Varsovie. Elle avait 15 ans. Elle a eu le premier prix devant David Oistrakh, c'était immense violoniste soviétique, qui lui avait 27 ans. Donc, c'est vraiment, ça a fait sensation. Et elle s'est imposée à l'international. À l'époque, on disait, elle joue comme un homme. Donc, recontextualisé dans cette époque-là. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se dégage de son jeu. Donc, allez savoir si c'est ça aussi qui a fait qu'elle est passée dans l'histoire, puisque elle n'était pas identifiée comme une femme violoniste, quelque part.
Vous expliquez avoir réalisé la grande complexité d'être femme et musicienne. Comme vos héroïnes, c'est quelque chose que vous avez expérimenté?
Alors, en fait, grâce à ce travail sur ces grandes musiciennes, j'ai compris beaucoup de choses sur mon parcours. Aussi, c'était très touchant, et j'ai insisté dans le choix en fait que j'ai fait de ces musiciennes, d'avoir une diversité de profils, une diversité d'origine, une diversité d'instruments, mais aussi une diversité de parcours féminin. C'est-à-dire, elles se posent toutes des questions sur la compatibilité de leur vie d'artiste avec leur vie de femme. Certaines embrassent la maternité, d'autres la refusent en expliquant que c'est incompatible. Et donc, ça m'a vraiment troublée de trouver finalement, enfin, dans l'histoire, des interlocutrices qui rencontraient ces questions. Mettons, je pense à Camilla Wicks, grande violoniste américaine, qui raconte comme c'était difficile de s'imposer face à des chefs d'orchestre quand elle était jeune. Elle arrivait très magnifique, jeune femme qui ressemblait à une star hollywoodienne, qu'on ne prenait pas au sérieux.
Ah oui.
Et puis elle jouait, et d'un coup, ça calmait un peu tout le monde. Et donc, et c'est vraiment fascinant de redécouvrir ces histoires que finalement, moi, on ne m'a pas racontées quand j'étais jeune violoniste.
Ginette Neveu, je le disais dans mon récit, avait des techniques bien à elle pour vaincre le trac. Est-ce que vous aussi, vous grimpez sur une table avant de monter sur scène pour vaincre le vertige d'abord?
Alors je ne fais pas ça. Par contre, effectivement, c'est une thématique qu'on rencontre tous et toutes, la question du trac. Alors chacun se l'approprie. Certains disent, moi j'ai pas du tout le trac. Ils sont quand même bien nerveux ou excités avant de rentrer sur scène. Mais ça, vous connaissez aussi cette sensation. Tout le monde la connaît. Donc quand j'ai fait cet épisode anniversaire sur Ginette Neveu, je me suis attachée à chercher des archives où des gens qui l'avaient connue parlaient d'elle, notamment sa professeure Lynn Talluel, qui racontait à quel point elle était perfectionniste et qu'elle travaillait dans tous les détails. C'est d'archer, donc des techniques d'archer de main droite. Et en fait, quand l'épisode a été diffusé, ma mère m'a appelée après, elle m'a dit, écoute, j'ai pas compris, en fait, tu parlais de Ginette ou tu parlais de toi?
C'est fou,
on se confondait. Stéphane, il se met un peu au violon, pour l'instant il est à 3 heures de cours, et on espère qu'on est avec lui pour peut-être... À la fin de l'année, il y aura un petit spectacle, Stéphane?
Oui, voilà, on progresse.
Mais vous êtes sérieux? Non, parce que moi, je lance le défi.
Écoutez.
Mettre Stéphane Bern au violon, c'est quand même un fantasme qui mérite. Je lance le défi. Europe 1, écoutez-moi.
Ah, mais avec vous, c'est pour être avec vous, avec toujours plus.
Mais calmez-vous les deux, là. Oh. Et moi, je tiens la chandelle. Bon, alors...
Merci Marina Chiche. Je rappelle que l'on peut redécouvrir les grandes musiciennes de l'histoire dans votre livre « Musiciennes de légende, de l'ombre à la lumière » et c'est une coédition First et France Musique. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages dont la mort a été éclipsée par une autre mort plus célèbre. Après John Adams et Ginette Neveu, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai, de Jean d'Ormesson, le célèbre écrivain qui, en fait, a été victime de ce qu'il redoutait le plus.
Et oui, Stéphane, esprit d'une vivacité réjouissante, Jean d'Ormesson avait lui-même expliqué un jour que pour réussir sa sortie, un écrivain devait absolument être attentif à ne pas mourir le même jour qu'une personne plus connue que lui. En choisissant le 5 décembre 2017, Jean Do a sans le savoir opté pour la pire de toutes les dates, celle de la mort de Johnny Hallyday. Je sais, Stéphane, que vous aimez énormément Jean d'Ormesson.
Et les Loukoum aussi.
Oui, mais aussi, mais surtout Jean d'Ormesson, un des rares invités que vous receviez dont vous lisez vraiment les bouquins. Parce que lire un bouquin de Jean d'Ormesson, c'est immédiatement retrouver foi en l'homme. Après une soirée chez des amis complotistes, un match du PSG ou un voyage en train Ouigo, vous ouvrez un d'Ormesson et vous vous rappelez soudain que l'homme, ça peut être ça aussi, l'intelligence, la drôlerie, la culture et, plus important, l'art de les partager. Car Jean d'Ormesson, c'était un érudit qui ne nous assommait pas avec son érudition. Il utilisait l'humour pour vous emporter vers elle. Dans sa bouche, rien n'était vulgaire. Il pouvait parler de choses les plus scabreuses avec poésie en recourant à la périphrase. Pouls fait ça souvent, c'est en ce sens un héritier de Jean d'Ormesson quand, par exemple, il ne dit jamais, par exemple, « aller à la selle », il dit
« expulser une matière, une pâte, à partir d'un contenant cylindrique en continu ».
De là-haut, Jean d'Ormesson doit être si fier de vous, Olivier. Jean Do, qui avait donc déclaré en 2006 au journal Le Figaro « Il y a 50 mauvaises années à passer. Après, ça s'arrange. La vie est plus agréable à 50 qu'à 20 ans. Le drame, c'est qu'il ne faut pas trop s'attacher à elle au moment où on va la quitter. » 11 ans plus tard, l'académicien n'est plus. Il est parti dans une relative discrétion, eu égard à son immense popularité. En cause donc le décès le même jour du seul type plus célèbre que lui à ce moment-là, Johnny Hallyday. Comme vous dites, David, c'est rageant. Se faire voler la vedette de son vivant, déjà c'est frustrant. Une cousine qui annonce sa grossesse le soir de ton mariage, une gamine de ta classe qui s'évanouit sur scène pendant le spectacle de fin d'année de l'école alors que t'es en train de briller dans le rôle de Pumba, le facochère. Vécu. Ton conjoint qui te coupe lorsque tu racontes fièrement une blague au cours d'un dîner pour dire la chute à ta place. Mais se faire voler la vedette dans le trépas, moi je vous le dis, si ça m'arrive, je me suicide. En plus, Jean d'Ormesson était visionnaire. En octobre 2008, il avait sur le plateau de Thierry Ardisson cette phrase « L'écrivain doit faire attention à tout ce qu'il écrit, il doit faire attention à tout ce qu'il dit et il doit faire attention à la façon dont il meurt. » Puis, évoquant Jean Cocteau, mort le même jour qu'Édith Piaf, il ajoute « Vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain de mourir en même temps que Piaf. » Et pourtant, 9 ans plus tard, il réussissait à faire presque pire. À quoi ça tient? Il serait mort le même jour qu'une star de seconde zone?
Bernard Ménez.
Par exemple, il aurait eu droit à 2 semaines d'hommages ininterrompus, car tout le monde aimait Jean d'Ormesson, qui, c'est vrai aussi, et ça joue, aimait tout le monde en retour. « Je n'ai jamais détesté personne, dit-il, sauf Hitler. » Est-ce à dire qu'il aimait Göring, Himmler, Pinochet et Staline? Je ne le crois pas. Jean d'Ormesson voit le jour à Paris en 1925. Mais il va beaucoup, beaucoup voyager. Normal, son père André est ambassadeur de France. Ça va vous plaire, Stéphane. Les d'Ormesson appartiennent à la noblesse française. Et pour cause, Jean porte le titre de comte d'Ormesson. Vous kiffez? Munich, Bucarest, Rio. Le petit Jean d'O vit au rythme des affectations de papounet. Mais il traîne plutôt dans les jupes de sa mère. Son père le regardant d'un drôle d'œil, persuadé qu'il est, je cite, « un voyou, un bon à rien ». Que dirait ce bon vieux André s'il voyait aujourd'hui les dealers de crack à Belleville et les gangs des quartiers nord de Marseille? Drôle de voyou donc que cet adolescent dilettante qui, lorsqu'on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, répond « rien ». C'est pour ça que j'ai choisi de faire de longues études, pour retarder le moment d'entrer dans la vie active, racontera-t-il plus tard. De retour à Paris, il fait Hippocagne au lycée Henri IV avant d'intégrer l'école normale supérieure. Jusqu'à ses 21 ans, il déclare d'avoir jamais ne serait-ce qu'effleuré la poitrine d'une femme. Toute son énergie, il la mettait dans le travail. C'est son père qui, par son austérité, le bloquait sexuellement, expliquera-t-il. Car oui, Jean Do est un tanguy avant l'heure qui vit chez ses parents jusqu'à ses 31 ans. Il faut dire que le service y était parfait, raconte-t-il. Il y avait un maître d'hôtel, André, qui était plus noble que tout le monde. En 49, Tanguy décroche l'agrégue de philo, puis se voit nommé secrétaire général du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines, le CIPSH, soit l'intitulé le plus relou du monde à inscrire dans la case profession d'une fiche de renseignement pour souscrire à une carte fidélité. Papa André aimerait qu'il devienne haut fonctionnaire, mais voilà, Jean Do préfère l'écriture. Son premier roman, L'amour est un plaisir, connaît un succès timide, mais son père meurt et forcé de reconnaître que ça le débloque à tout niveau. Sa plume est plus vigoureuse que jamais. En 71, il reçoit son premier prix littéraire, le Grand Prix du roman de l'Académie française pour La gloire de l'Empire, puis devient à 48 ans le plus jeune académicien de l'histoire. Jean Do devient peu à peu sexy et moderne. Sous la coupole, il fait figure de punk à chien quand il propose et réussit à faire entrer une femme à l'Académie, Marguerite Yourcenar. Il milite publiquement pour le droit à l'avortement, pour l'égalité homme-femme, imperceptiblement, il passe d'écrivain à star. Je suis devenu une marque, comme les Banylon ou le Coca-Cola. Beaucoup m'ont vu plus que lu. Rédacteur en chef au Figaro, acteur aussi en 2012 pour Les Saveurs du Palais, Jean d'Ormesson touche à tout avec bonheur. Comble du chic, Stéphane, il est édité à la Pléiade de son vivant. Ça, c'est chiquissime. Hein. Et tout le monde l'aime, des plus vieux aux plus jeunes, comme Julien Doré, qui se tatoue son nom sur le bras. Quand il n'incarne pas un président à l'écran, il les côtoie. C'est le buddy officiel des chefs d'État, tous bords confondus. Avec François Mitterrand, il parlait littérature. Avec Chirac, art premier. Avec Nicolas Sarkozy, ben, il parlait de Nicolas Sarkozy. Bref, et l'amour dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, on a vu que jusqu'à ses 21 ans, il avait été plutôt timoré. Mais après, eh bien après, mes coquinous, on peut dire qu'il a lâché les chiens.
Chaud devant chaud.
J'ose à peine vous dire à quel point j'ai connu les femmes. Ça m'est venu à 21 ans et à partir de là, ça a eu des conséquences désastreuses, disait Jean d'Ormesson. Oui, Jean Do, ne nous fais pas un dessin, on voit bien. Jean Do est marié à la très dévouée Françoise Béguin, dont il faut ici saluer la patience. Hein. Jean disait, le mariage, c'est 40 mauvaises années à passer, puis après, c'est épatant. Ensemble, ils ont une fille, Héloïse, à qui ils prodiguent d'ingénieux conseils sur l'amour, son domaine d'expertise. J'ai toujours dit à ma fille de ne pas épouser un écrivain et de s'intéresser plutôt à un pilote de chasse parce qu'un écrivain ne tient pas beaucoup au bonheur. Jean n'aura de cesse de saluer la ténacité de Françoise, façon élégante de dire qu'elle a su avaler un sacré nombre de couleuvres, Jean étant devenu au fil des années un fiefé cavaleur. Mais attention, Jean n'aimait pas que les femmes, j'aimais aussi les hommes, me dit-il. J'ai souvent dormi avec des homosexuels, j'aime leur compagnie, déclarait-il à gala. Alors, bon, on n'a pas le ratio homme-femme parmi les conquêtes de Jean Do, en même temps ce n'est pas un truc qui se demande, et puis franchement, qui tient vraiment le compte?
60 hommes et une femme.
À part Stéphane, Mais passons, passons ce détail. Jean, lui, ne comptait pas, il faisait pas ce ratio. Jean plaçait la philosophie encore au-dessus de l'amour. Il nous a quittés le 5 décembre 2017, donc à 92 ans, dans une relative discrétion liée au décès concomitant de Johnny Hallyday. Je suis sûr que finalement ça l'aurait amusé. Lui qui disait « J'ai énormément aimé la vie, mais si Dieu me proposait de recommencer, je n'accepterais pas. » Phrase que je tenais à partager avec vous, car vu son appétit de vie, sa gourmandise pour l'existence, elle m'étonne un peu. En tout cas, c'était un homme merveilleux, dont la plus grande qualité était d'être joyeux en toutes circonstances. Il mettait de la joie partout, comme vous Stéphane, nos invités peuvent en témoigner.
Merci de me recevoir.
Mais non, c'est une joie.
Quelle folie, vous êtes le nouveau Jean d'Ormesson, Stéphane, toujours gai et rieur.
La politesse du désespoir, vous avez.
Là, il y avait de ça, je ne sais plus qui c'était, mais visiblement.
Oui, vous avez récolté les bas morceaux, merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Même si je sais, Mathieu, que vous auriez aimé passer plus de temps avec Ginette Neveu.
Ah oui, c'est dommage, mais je compte me consoler dans les bras de Latchoa avec vous, Olivier Pouls.
Dans les bras.
C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'un Nacho a peu de bras. Hein. Ouais, c'est un ragoût, c'est ça?
C'est un ragoût. Je vous le confirme, il vous consolera. Il vous apportera chaleur et convivialité, mais pas plus.
C'est déjà pas mal, vous savez. David Castello-Lopez, d'abord, nous entraîne aux origines de la gloire télévisuelle de Donald Trump, qui vous a intéressé.
Exactement. Vous en souvenez, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2016, Donald Trump, il était déjà super connu aux États-Unis, mais aussi ailleurs. C'était vraiment un symbole du succès flashy à l'américaine. On pouvait s'en moquer, mais il avait quand même l'air d'avoir tous les attributs de la réussite. Et il s'est largement servi de cette célébrité pour se vendre en tant que candidat. Et pourtant, pas si longtemps avant ça, au début des années 2000, Donald Trump, il n'était pas si connu. Il avait publié un livre qui avait eu beaucoup de succès dans les années 80, qui s'appelait The Art of the Deal, livre qu'au passage, il n'avait pas écrit.
Mais il avait sa tour déjà, la Trump Tower.
Oui, il avait sa tour. Il avait un certain nombre de succès, mais si vous voulez, à ce moment-là, il avait de gros problèmes. S'il était sur le retour, un peu vieux, il avait de gros problèmes financiers, il avait fait faillite plein de fois, et pas mal de gens le considéraient comme une sorte de has-been un peu ridicule. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre ce moment où il était super has-been et le moment où il était super connu? Comment est-ce que Trump il est passé de loser sur le retour à super célébrité? Eh bien, selon plein de gens qui ont écrit dessus, c'est uniquement grâce à la télévision et à l'émission à laquelle il a participé pendant 14 saisons, qui s'appelait The Apprentice, en français L'Apprenti. The Apprentice, c'était une sorte de concours, on le connaît un petit peu, c'était une sorte de concours télévisé qui s'étalait sur une quinzaine d'épisodes d'une heure et dans lequel des gens essayaient de gagner un emploi. Chaque semaine, ils devaient effectuer une tâche qui était censée démontrer leur aptitude en matière de business, faire une campagne de pub, lever des fonds, etc. Et à la fin de chaque épisode, ils se réunissaient dans une pièce et Donald Trump virait la personne qu'il considérait comme la moins performante en disant toujours la même phrase, « You're fired, vous êtes viré ».
Il ne le disait pas avec cet accent british délicieux. Ouais, hein.
You fight. Je ne suis pas très bon en accent américain. Et le gagnant, il ne gagnait pas n'importe quel emploi, il gagnait un emploi payé 250 000 dollars par an dans une des entreprises de Donald Trump, qui au passage ne déboursait pas un centime pour payer l'employé en question, puisque c'était la production de l'émission qui payait. Mais alors, comment est-ce que Donald Trump s'est retrouvé à faire cette émission ? Qui est la personne qui a eu l'idée de le mettre à la division, de la télévision comme ça ? Eh bien, c'est un monsieur anglais qui s'appelle Mark Burnett. Mark, c'est un ancien soldat d'élite de l'armée britannique qui a participé à la guerre des Malouines, hein, mais bien zigouillé de l'argentin frondeur.
Puis, il l'avait cherché.
J'adore.
Voilà, l'argentin frondeur, c'est bien ce que je dis. Et puis, il en a eu marre, alors il est devenu babysitter à Los Angeles avant de se lancer.
Choc.
Voilà, sacré choc. Et puis, finalement, il s'est lancé dans la production de télévision, il a produit un certain nombre de choses. Et c'est lui qui, au bout d'un moment, a lancé la version américaine de Koh-Lanta, qui s'appelle Survivor, et qui l'a rendu riche et célèbre. Et un jour, Mark, après ce succès, il a eu une idée, il s'est dit « Attends, Survivor, c'est une émission où il faut survivre dans la jungle. Pourquoi on ne fait pas une émission où on doit survivre à la ville ? Genre, ce qu'on gagne, ce n'est pas de manger un bol de riz, c'est plutôt un travail. » Le truc, c'est qu'il lui fallait une personnalité pour être le chef, un peu une sorte de Denis Brognard à la ville. Et il s'est dit que Trump, ce serait super. Alors, il l'a un peu dragué en le flattant. Et Trump, il a accepté. Ça a eu un succès immédiat. Ça a changé assez vite l'image de Donald Trump, qui a commencé à être perçu de nouveau comme une star un peu sympa. Sans compter que ça a donné, je l'ai dit, une célébrité de malade à Donald Trump. Tout ça alors même qu'il y a plusieurs témoignages qui attestent que dans l'émission, Donald Trump, il faisait souvent n'importe quoi. Et notamment, il éliminait des gens qui s'étaient super bien débrouillés. Comme ça, parce qu'il avait envie. Et donc, les monteurs de l'émission, ils devaient aller retrouver le peu d'images du candidat qui avait été filmé, où il avait l'air un tout petit peu moins bon. Tout ça pour justifier, a posteriori, la décision de Donald Trump. Mais le public, tout de même, il adorait l'émission. Et c'est fort de cette célébrité que Trump a pu se présenter à la présidence de la République. Et d'ailleurs, quand il a annoncé sa candidature en 2015, il l'a fait dans l'atrium de la tour Trump, avec une mise en scène qui ressemblait énormément à certains passages de l'émission. Il a copié l'émission dans la vraie vie. Donc, en quelque sorte, Mark Burnett, le producteur anglais,
c'est lui,
est un
le fautif,
responsable du fait que Trump ait été président des États-Unis pendant 4 ans. Il a été un peu insulté publiquement à cause de ça, notamment par le présentateur américain Jimmy Kimmel. Alors aujourd'hui, Mark, il n'est pas super à l'aise avec toute cette histoire. Bon, il a quand même accepté de produire le show de l'investiture de Donald Trump.
Ah bon ? Mais il est en froid. Alors.
Oui, ça a été un raté total quand même, parce que tous les artistes que Trump voulait inviter ont refusé de venir. Mais par ailleurs, Mark, il s'est distancié un peu publiquement de plein de positions de Trump. Voilà, c'était l'histoire de ce coup de pouce télévisuel sans lequel Donald Trump serait peut-être resté un loser un petit peu oublié.
Très certainement. Mais
un jour, les Américains lui ont dit « You're fired ».
Voilà, « You're fired », exactement.
Il n'a pas accepté.
Non. Et en plus, il y a eu toute une polémique parce qu'évidemment, il filmait 300 heures de bande pour une seule heure d'émission. Ouais. Donc, il y avait des milliers d'heures de Donald Trump qui disait n'importe quoi. Il y a des gens qui disent « Mais attends, il faut qu'on ait accès à ces bandes-là parce que c'est sûr qu'il a dit des trucs qui vont pouvoir lui nuire. » Et en fait, Mark a toujours refusé de donner les bandes.
Et il paraît aussi qu'en coulisses, son comportement avec les femmes n'était pas ce qu'il y a de plus respectueux.
Tout à fait.
Comme c'est étonnant, voilà.
Grab him by the...
Merci, voilà. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
L'histoire, vous le savez, nous passionne, mais quand arrive une certaine heure, nous ne pensons plus qu'à bouffer. C'est là.
C'est votre cas, en tout cas.
C'est mon cas, je le confesse. Vous nous parlez aujourd'hui, Olivier, d'une recette que, évidemment, Stéphane ne connaît pas, puisqu'il l'a appelée tout à l'heure l'Axoa. Et c'est plutôt l'Achoa, puisque nous sommes dans le Pays Basque.
Je vois, vous connaissez bien cette région de France. Et la prononciation, en tout cas.
J'adore la France,
la région. De ces beaux plats. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Achoa ? C'est un ragoût, c'est un de ces plats campagnards, comme il en existe beaucoup dans différentes régions, et qui a pris l'accent, justement, d'une région et d'un produit. Ben, on va le voir dans un instant, parce que ce produit, on le trouve abondamment sur place. Alors, cet emblème de la gastronomie basque, et plus précisément de la région qu'on appelle la région du Labour, donc qui englobe notamment la petite ville d'Espelette. Les origines de ce plat remonteraient au XIIe ou XIIIe siècle. Alors c'est comme beaucoup de plats, c'est un plat de cuisson longue avec des viandes diverses et variées à l'époque. On prenait un peu ce qu'on pouvait trouver, notamment des morceaux morceaux qui n'étaient pas très nobles, et donc on était obligé de cuire assez longtemps pour les rendre les plus tendres possibles. Et puis surtout, quand les viandes n'étaient pas de toute première fraîcheur et pas extraordinairement bonnes au goût, il fallait mettre quelque chose par-dessus qui avait tendance à masquer, à cacher tout ça. Et qu'est-ce qu'on avait dans cette région-là ? On avait le fameux piment d'Espelette, puisque le piment d'Espelette est connu depuis le XVIIe siècle là-bas, probablement les années 1650. Et il faut savoir que là-bas, ce piment a longtemps remplacé le poivre, qui était une épice extrêmement chère et difficile à trouver, et qu'on le remplaçait avantageusement par du piment d'Espelette. Stéphane disait tout à l'heure qu'il trouvait que c'était un peu piquant, le piment d'Espelette, mais pas du tout. Petit rappel, hein, sur l'échelle piquante des piments, il est tout en bas. Il est piquant à peu près comme du poivre. Et donc ce fameux piment d'Espelette, dont on a terminé la récolte 2021, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a eu la fête du piment d'Espelette, je crois que c'était le dernier week-end du mois d'octobre. Il bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 2000. Et donc, l'achoa, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie haché en basque. C'est donc de la viande hachée, cuisiné avec du piment d'Espelette et quelques autres légumes dont je vais parler dans un instant. Cuisson assez longue, assez lente justement pour avoir ce fondant de l'achoa. Et je vous donne la recette tout de suite si vous le voulez bien. Alors 600 grammes de veau, parce qu'aujourd'hui la grande mode c'est au veau. On peut faire de l'achoa de bœuf. Oui. Mais moi ce que je fais c'est que je prends du veau et je rajoute un petit peu de jambon de Bayonne aussi. Ça donne un peu de goût à la préparation. Une gousse d'ail. Des piments frais, mais là, pour le coup, vous n'en trouverez plus parce que la saison est passée. Non. Mais on va les remplacer par des poivrons rouges. Ça marche tout aussi bien. Une belle cuillère à café ou à soupe, suivant votre intérêt pour le côté relevé, de piment d'Espelette. Un oignon, un petit peu de vin blanc et puis une feuille de laurier. Alors, on coupe le veau en petits morceaux. On ne le hache pas. Là aussi, c'est très important. Couper au couteau, c'est bien meilleur pour la texture. Le veau haché, ben justement, ça s'effiloche complètement et puis il n'y a plus rien à mâcher. Moi, j'aime bien garder un tout petit peu de mâche. Donc, on le coupe au couteau, tout comme le jambon de Bayonne, en petits dés. On émince les légumes très finement. On fait revenir les légumes dans l'huile d'olive, donc l'oignon, l'ail, les poivrons, etc. On rajoute le veau, le jambon, une petite feuille de laurier. On mouille avec du vin blanc. Et ensuite, on va laisser mijoter ça pendant 30 minutes à couvert. C'est important pour conserver l'humidité et garder de la sauce dans notre plat. On rajoute le piment d'Espelette à la fin, quand la cuisson est pratiquement terminée. Certains rajoutent même une petite tomate. Moi, je ne suis pas forcément pour, mais en plus, c'est plus la saison. Mais le piment d'Espelette à la fin, parce que sinon, en cuisant trop longtemps, le piment, il perd ses saveurs. Donc, c'est vraiment au dernier moment. Et puis, on accompagne ça généralement de pommes de terre qu'on a cuites à l'eau ou à la vapeur. Et c'est comme tous les plats mijotés, en général, encore meilleur le lendemain quand on le réchauffe.
L'achoa. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Pour terminer, pas de bons vivants, mais d'embêtants morts sur lesquels je vais vous poser des questions. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter ? C'est
oui.
La lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, des questions. Si vous êtes à égalité, eh bien une question supplémentaire pour vous départager. Olivier, je me tourne vers vous. La guerre de 100 ans entre les Valois et les Plantagenêts a duré plus ou moins 100 ans.
Elle s'est arrêtée, elle a repris.
Mais au total.
Au total, je pense qu'elle a fait un peu plus de 100 ans, je dirais.
Eh oui, 116 ans, 4 mois et 15 jours.
Et le traité d'Armistice était signé, était préparé à côté de Bordeaux, je crois, au château de Lormont.
En tout cas, c'est une.
Mais ça, c'est pas ce qu'on vous demandait. N'essayez pas de briller comme ça. Alors, on essaie tous de caser ce qu'on sait en plus, comme ça. Oui. Mais
on m'a dit pour David Cassé-Lopez une spéciale nazie. Alors, c'est sa passion. Mein Kampf existe en version manga, vrai ou faux ?
Que ça existe en version manga Mein Kampf. Il doit y avoir des trucs sur les nazis.
Non, c'est pas une biographie d'Hitler, ni sur Mein Kampf.
Moi, je dirais non.
Il y a une version manga.
Ils ont osé.
Et il s'est vendu à 45 000 exemplaires, mais c'est une version qui n'est sortie qu'au Japon. Et dans la même collection, il y a le Capital de Karl Marx, il y a aussi la Bible ou le Coran. Mathieu. En 1888, Hermann Witzelsucht a été diagnostiqué pour la première fois d'un symptôme qui aujourd'hui porte son nom, le syndrome de Witzelsucht. Si comme lui, vous en souffrez, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des blagues vaseuses. Vrai ou faux ?
Non mais sérieux.
Qu'est-ce qui est vrai ? C'est-à-dire que je dois répondre à quoi ? Si le syndrome existe ou si le syndrome c'est ça ? Ou si l'inventeur...
Tout.
Si, alors c'est-à-dire que si je réponds vrai, c'est un vrai global pour l'ensemble de la question.
Oui.
Tout ce que vous auriez dit est vrai. Il est allemand ?
Bah, comme son nom l'indique.
Il pourrait être autrichien, c'est pas... Bon, alors excusez-moi, excusez-moi d'être précis. Hein,
et Mozart, il était allemand ou autrichien ?
Bon alors, je dirais que c'est faux.
Bonne réponse.
Ah,
le Zimbdom est vrai. Mais Amann-Wittelsurd n'a pas existé pour une bonne raison, c'est que si vous aviez fait allemand deuxième langue, vous sauriez que Witzel, c'est la blague, et Wittelsurd, c'est addiction à la blague.
Ça fait déjà comme ça. Mais je n'ai pas fait allemand second langue, j'ai fait russe.
Mais c'est très handicapant. Vous savez, les gens qui, les relous là, qui font tout le temps des blagues,
des contrepétries,
oui, etc. J'adore. Ils font des jeux de mots tout le temps.
Moi, j'adore.
C'est vrai, vous aimez ?
Ben oui, j'aime bien.
Vous n'y êtes pas avec. Alors, la question pour départager, Mathieu Noël d'Olivier Pouls. Carl Friedrich Gauss était un mathématicien, astronome et physicien allemand, né en 1777. Il a réussi à dessiner un heptadécagone régulier à la règle et au compas. Quel âge avait Karl quand il a réussi ce prodige ?
Alors, est-ce qu'il était,
on les trace à main levée.
Est-ce qu'il était très jeune ou est-ce qu'il était très vieux ? Est-ce que c'est le travail de toute une vie ou est-ce que c'était un génie
c'est
comme
Évariste
Galois ?
Moi, je choisis mon camp.
Alors, votre camp, c'est où ?
Mon camp, c'est un génie. C'est 12 ans.
12 ans. Et vous ?
Ben, 15.
15. Et bien vous gagnez, Mathieu. C'est 19 ans.
Non, j'ai gagné. Ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné. C'est bon, gagné. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève sur cette sublime victoire de moi-même. Il était consacré aujourd'hui à ces personnages de l'histoire qui ont eu la bêtise de mourir le même jour que d'autres personnages plus célèbres que vous, Stéphane. Vous avez tout planifié de ce
côté-là.
Non,
je me moque de la postérité. Ça ne m'intéresse pas.
Quand même, c'est
non,
con.
Non, pas trop.
Ce serait dommage.
Tant pis.
Tant pis. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en pleine forme et qu'on se retrouve dimanche.
Oui, bien sûr, Mathieu. Dimanche, est-ce qu'auparavant, je peux par avance vous souhaiter un joyeux anniversaire pour demain ?
C'est là, c'est vrai. Oh oui, ça... Oh, 39 ans, la barre fatidique approche.
Allez, à dimanche, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.